Vous écoutez Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, 19h à Washington.
Gali Bonin.
Washington, où la guerre contre l'immigration clandestine a été lancée, la police de l'immigration a effectué des raids dans plusieurs grandes villes démocrates du pays. L'actualité, c'est aussi Mexico qui se prépare à l'arrivée massive des Mexicains qui seront expulsés des États-Unis. Des centres d'accueil sont en train d'être mis sur pied le long de la frontière. L'Irlande a finalement un premier ministre. Michael Martin a été nommé jeudi, 2 mois après les élections. Récit de cette lente nomination dans ce journal. Toujours en Europe, l'assaillant de Southport a été condamné à 52 ans de prison. Il avait attaqué et tué 3 fillettes en juillet, ce qui avait déclenché des émeutes partout au Royaume-Uni. Nous terminerons avec la chute d'une star de la télévision japonaise. Accusé de multiples agressions sexuelles, Masahiro Nakai annonce qu'il quitte la vie publique. Mais d'abord, Donald Trump qui décide de lever le voile sur des assassinats majeurs du XXe siècle, ceux du président John F. Kennedy, de son frère Bobby Kennedy et de l'activiste des droits civiques Martin Luther King. Le président vient d'ordonner la déclassification des archives gouvernementales sur ces événements. Le feutre utilisé pour signer le décret a ensuite été remis à son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., le neveu de JFK. Tout sera révélé, a promis le nouveau locataire de la Maison Blanche. Un autre décret présidentiel a lui été suspendu temporairement, celui qui remettait en cause le droit du sol aux États-Unis. Le juge fédéral à l'origine de cette suspension parle d'un ordre manifestement inconstitutionnel. Cela n'empêche pas Washington d'aller de l'avant avec ses autres mesures anti-immigration. Jeudi, la police américaine a lancé plusieurs raids pour arrêter des migrants en situation irrégulière. Très symboliquement, les premières opérations ont visé des villes sanctuaires, ces fiefs démocrates qui tiennent et qui s'opposent aux politiques de Donald Trump. La correspondance à Miami de David Thompson.
Ces premiers raids anti-migrants ont été lancés au petit matin à Chicago et à Boston. 2 cibles qui ne doivent rien au hasard. Ce sont 2 bastions démocrates, 2 villes sanctuaires, donc pro-migrants. À Chicago, le maire a promis de s'opposer à cette politique d'expulsion de masse et aux rafles de migrants dans sa ville. En réponse, Tom Homan, l'homme que Donald Trump a nommé tsar des frontières pour expulser les migrants, a menacé de poursuivre en justice ce maire de Chicago s'il l'empêchait de mener à bien sa mission. On sait encore peu de choses sur l'ampleur de ces premières arrestations. CICE, la police anti-immigration, a choisi de médiatiser en acceptant dans ses rangs les caméras de la chaîne conservatrice Fox News. Ces premiers raids ne visent pas des familles, ils ciblent uniquement des individus déjà condamnés et recherchés par la police pour des faits de violence grave. L'administration Trump fait donc ainsi coup double avec ses premiers raids en frappant chez les démocrates pro-immigration et en arrêtant des sans-papiers déjà condamnés pour montrer que cette politique anti-immigration de Donald Trump vise d'abord à assurer la sécurité des citoyens américains. David Thompson, Miami RFI.
Et au Mexique, le gouvernement se prépare à recevoir les premiers expulsés de l'ère Trump. 10 de refuges sont en construction, dispersés le long des 3000 km de frontières qui séparent les deux pays. Ils font partie du programme México te abraza, le Mexique t'accueille chaleureusement en français. Un plan d'accueil mis en place par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum peu après l'investiture de Donald Trump. Selon les estimations, au moins 6 millions de Mexicains vivent sans papiers aux États-Unis. Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit son offensive en Cisjordanie occupée, offensive qui a fait au moins 12 morts. Au 3e jour de l'opération Mur de Fer, des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de Jenin. C'est cette ville qui est dans le viseur de l'armée israélienne. Selon l'autorité palestinienne, les troupes israéliennes ont rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'y éradiquer le terrorisme. Direction l'Irlande qui vient d'élire un nouveau premier ministre. Michael Martin a été choisi ce matin par le Parlement, jeudi matin. Leader du plus grand parti à l'issue des élections fin novembre, il semblait évident que la fonction lui revenait. Mais pourtant, on ne comptait pas quelques péripéties de dernière minute. Le compte rendu à Dublin de Clémence Pénard.
Le processus de nomination, qui devait être une simple formalité hier, a finalement été très chaotique. En cause, une dispute au Parlement au sujet du temps de parole des députés indépendants. Les indépendants qui font désormais partie du gouvernement de coalition avec les deux partis historiques de centre-droit, le Fine Gael, le parti de Simon Harris, l'ancien Premier ministre, et le Fianna Fáil, dirigé par Micheál Martin, le nouveau Premier ministre. Pas si nouveau d'ailleurs, car à 64 ans, Micheál Martin n'en est pas à son premier tour de piste. Il a déjà été Taoiseach, c'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre ici, dans le dernier gouvernement de coalition. Né en 1960 à Cork, Micheál Martin, dont le père était un ancien soldat reconverti chauffeur de bus et la mère femme au foyer, entre très vite en politique à seulement 25 ans et enchaînera les portefeuilles ministre de l'éducation, de la santé, de l'entreprise et enfin ministre des affaires étrangères. Aujourd'hui, ce vétéran de la politique et également père de 5 enfants devra jongler avec les nuances politiques de son nouveau gouvernement. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et le premier défi de Micheál Martin est d'ordre météorologique. L'Irlande est entrée en alerte rouge quelques heures avant le passage de la tempête Éowyn, avec des vents qui pourraient dépasser les 130 km/h vendredi. Au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et l'Écosse sont aussi en état d'alerte maximale. Le Royaume-Uni, justement, qui avait été ébranlé par l'attaque de Southport en juillet dernier, un jeune homme de 17 ans avait fait irruption dans un centre aéré qui proposait un atelier de danse sur le thème de Taylor Swift. 3 fillettes sont mortes poignardées, une dizaine d'autres enfants blessés et traumatisés. L'assaillant vient d'être condamné à 52 ans de prison minimum. La correspondance à Londres, d'Emeline Vin.
Axel Rudakubana vient d'être condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 52 ans pour meurtre, tentative de meurtre et possession de documents liés à un groupe terroriste. Encore mineur lors de la tuerie de Southport en juillet dernier, le Gallois ne pouvait pas recevoir de peine incompressible, mais le juge estime qu'il ne retrouvera probablement jamais la liberté. Expulsé 2 fois de la salle d'audience, ce jeudi, le jeune homme n'a pas assisté aux déclarations des parties civiles. Les parents, les enfants et 2 animatrices du centre aéré ont raconté cette journée atroce de juillet. La violence de l'attaque, le sang partout, les blessures et la mort, les cauchemars et la culpabilité d'avoir survécu. Même l'avocat d'Axel Rudakubana a peiné à mettre en avant des circonstances atténuantes. Le volet judiciaire des meurtres de Southport s'achève donc ce jeudi, mais il reste un accusé et de taille l'État. Fasciné par la violence, Axel Rudakubana avait été signalé 3 fois au service antiterroriste. Le gouvernement a promis une enquête pour identifier les échecs qui ont mené à la tuerie et n'exclut pas de faire de la violence extrême une motivation terroriste. Emeline Vallandre, RFI.
Au Japon, c'est la chute d'un des animateurs télé les plus célèbres du pays, Masahiro Nakai. Cette ancienne star de la pop japonaise dans les années 90 met fin à sa carrière après des accusations d'agression sexuelle. Pendant plusieurs semaines, les grands médias du pays ont ignoré ces révélations. C'est finalement un fonds d'investissement américain qui leur a forcé la main. Les explications à Tokyo de Frédéric Charles.
C'est le fonds américain Dalton, un actionnaire important de la chaîne Fuji, qui force Masahiro Nakai à mettre fin à sa carrière. Dalton a crié au scandale, accusé la chaîne Fuji de couvrir les faits reprochés à l'ex-leader du boys band SMAP. Selon l'hebdomadaire Shukan Bunshun, la victime a dit à ses collègues avoir subi en juin 2023 une agression sexuelle de la part du présentateur vedette. Elle a été traitée par un médecin. Elle a entre-temps perdu son emploi. Durant plus d'un an et demi, Masahiro Nakai a continué d'apparaître dans plus de 200 émissions de télévision. En intervenant publiquement, Dalton a incité les plus grands annonceurs de Fuji comme Toyota à retirer leurs spots publicitaires. Le scandale survient après que le groupe de boys band Johnny Associates a admis que son fondateur décédé, Johnny Kitagawa, a violé des centaines de jeunes garçons pendant des dizaines d'années. Et l'ex-star du groupe SMAP, Masahiro Nakai, était issu de cet empire des boys bands. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Et pour terminer ce journal, un record, celui du film non anglophone avec le plus de nominations de l'histoire des Oscars. Emilia Pérez, du réalisateur français Jacques Audiard, est en lice dans 13 catégories, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Cette œuvre métissée a été filmée en France, mais tournée et chantée en espagnol avec des des actrices américaines, dont la star Selena Gomez, un record de nomination qui a été salué par la ministre française de la Culture, Rachida Dati. Emilia Pérez est une odyssée musicale qui raconte l'histoire d'un baron de la drogue transgenre. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le www.rfi.fr ou notre application Pure Radio pour toute l'actualité radiophonique en direct.